Première partie, la famille. Chapitre 1. Le voici, aux confins d'un désert immémorial, simple élément d'une file d'êtres humains qui traversent les dunes en silence. La chaleur, ardente, fait vibrer l'air, bien que la journée soit presque finie et que le soleil rejoigne l'horizon. Parfois, Spider ne se rappelle que ce lieu. Sa peau est encroûtée de sueur, sa langue enflée, ses pieds lui font mal, mais il poursuit sa lente marche. La nuit approche. Il n'a pas le choix. La famille compte 13 membres au total. Un assemblage disparate qui va de la fillette de 5 ans au géant grisonnant de 60 ans son aîné. Certains sont valides et d'autres moins. Spider le sait. Au sein du groupe, il est celui qui offre le spectacle le plus étrange. Quoiqu'il mesure près de 2 mètres et soit aussi élancé, aussi vigoureux qu'un jeune chêne, son accoutrement fait de lui un être à part. Il porte de gros godillots de toile, des lunettes d'aviateur et une robe de femme en lambeaux que la brise légère fait voler paresseusement sur ses jambes hâlées. Il conduit l'unique chamelle de la famille, lourdement chargée. La bête est aussi découragée que ses compagnons humains. Morose, épuisée, elle traîne la patte et ses bosses sont tristement affaissées. Amasha marche près de Spider. La silhouette ronde et ramassée, elle se déplace comme le vaisseau amiral d'une flotte royale dont les voiles frémiraient autour de son visage. Il n'y a dans son expression aucune hâte, aucune trace de cette crainte qui tenaille le reste de la famille. Spider lance un regard par-dessus son épaule pour voir si les autres suivent. La petite fille blonde, qui ces 2 dernières heures a cheminé bravement à côté de la chamelle, sanglote à présent de peur. « Hé !» marmonne-t-il en se penchant vers Amasha. « T'as vu ?» Amasha ne se retourne pas, gardant les yeux rivés sur l'horizon. « Bien sûr, elle est inquiète, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. » Elle pleure. « je sais, mais si nous voulons préserver la famille, nous ne pouvons pas nous arrêter. Il faut qu'elle suive. Nous devons rentrer, elle le sait. Ne fais pas attention à elle, elle va se calmer. » Spider enroule d'un tour de plus autour de son poing, l'allonge de la chamelle et se penche en avant, concentrant toutes ses forces sur la marche. La fatigue lui pique les yeux, mais il poursuit son chemin, pas à pas, conscient des zones de son cou que le soleil a brûlées ces derniers jours, du frottement de ses pieds sur les semelles dont le cuir est devenu trop mince. Il ne lève pas le regard sur ce qui l'entoure. Les immenses et monotones étendues de sable à 40 clics à la ronde, les villes lointaines et les constructions de métal, de vastes tours coniques parfois hautes et larges d'une 100 mètres. Maintenant que le soleil se couche, elle projette sur le sol des ombres aussi colossales que des montagnes éboulées. La petite fille pleure de plus en plus fort. Spider fait halte et la chamelle obéissante l'imite. Il se faufile sous le cou de la bête et se baisse pour prendre l'enfant dans ses bras. Mais avant même qu'il puisse l'installer sur ses épaules, Nour, qui mène la troupe, se retourne. C'est un grand jeune homme de 27 ou 28 ans, vêtu d'un kurta traditionnel couleur d'or pâli. Les cheveux raides et bien peignés, il a le nez aquilin et se tient très droit. Il émane de lui une gravité sacerdotale. Les yeux plissés, il dévisage Spider, puis secoue la tête, discrètement mais sans équivoque. On ne désobéit pas à Amasha. Spider s'accroupit près de la petite fille qui pleure à présent à chaudes larmes. Écoute, il faut que tu continues encore un peu. Il fait presque nuit. Tu pourras te reposer bientôt, mais pour le moment, il faut marcher. D'accord ?
Je veux pas marcher. J'ai peur.
Je sais. Je sais que tu ne veux pas marcher. Je sais que tu t'es donné beaucoup de mal toute la journée et que t'es claquée, morte de fatigue. Mais il faut que tu continues. Dis-toi que c'est un concours. Toi, Kero et Mahmoud, qui arrivera le premier à la maison ? La fillette se frotte les yeux et sa lèvre inférieure se retrousse, boudeuse, tandis qu'elle lance un regard aux 2 garçons qui ferment la marche.
Si je gagne, j'aurai des crêpes en plus ?
Ça peut s'envisager. Elle pousse un long soupir, frappe le sable de ses sandales ouvertes. D'accord, peut-être. Alors il se remet en marche, Spider baissant les yeux face au soleil couchant et tirant sur la longe de la chamelle. Ça recommence lorsque Mackenzie entame son avant-dernière année de lycée. Elle se réveille à 3 heures du matin. Inutile de regarder la pendule. À travers les Vélux, la position des étoiles la renseigne. Couchée sur le dos, elle scrute la voûte céleste en battant des paupières, essayant de comprendre ce qui l'a réveillée. Elle a la chair de poule, comme si elle sortait tout juste d'un cauchemar. Elle inspire profondément, jusqu'au bas de sa cage thoracique. Sa mère le répète sans cesse, « Rien ne vous calme comme la respiration yogique. » La chambre paraît normale. Tout est à sa place. Les affiches du désert sont toujours punaisées au mur, les Vélux grands ouverts, même s'il gèle dehors. Elle faufile une main sous les draps, à la recherche de Doudou Lapin. Elle l'a eu toute petite, et c'est peut-être son meilleur ami, après India, à qui elle confie tous ses secrets. Il est là, tiède contre son ventre. Elle le touche, mais ne sent pas son velours duveteux, ni ses longues oreilles. Rien qu'une peau brûlante et écailleuse. Elle pousse un petit cri, et Doudou Lapin remue, se tortille compact et musculeux. Quelque chose lui racle l'abdomen, et Mackenzie arrache les couvertures, bondit hors du lit et atterrit en position accroupie sur le plancher, le cœur battant, les bras tendus devant elle. La couverture bouge, ondule. À quatre pattes, Mackenzie recule. Parvenue au pied du mur, elle se redresse en tremblant et se rue vers l'interrupteur pour allumer. La couverture se soulève. Une tête en jaillit. On dirait un lézard, mais un lézard comme Mackenzie n'en a jamais vu. Il a une couleur fauve et une collerette à cornes, comme un dinosaure. Il cligne des yeux avant de s'enfuir à nouveau sous les draps, luttant avec eux jusqu'à ressortir de l'autre côté. Puis, il se laisse tomber sur le plancher dans un bruit sourd et disparaît sous le sommier. Mackenzie ouvre en grand la porte de sa chambre et la claque derrière elle. Le cœur affolé, elle reste un instant sur le palier, puis descend l'escalier 4 à 4.
« Maman ?»
gémit-elle une fois parvenue au deuxième étage, la gorge si serrée que les sons ont du mal à sortir.
« Maman ?»
Elle descend encore d'un niveau, vers le premier, dont le long couloir est bordé au ras du sol de lumignons en forme de cœur. Ses frères occupent les deux chambres sur la gauche, dont les portes sont closes. À une distance qui lui paraît inaccessible, se trouve celle des parents, également fermée, ce qui n'est pas dans leurs habitudes. Avec toutes les précautions du monde, elle remonte le couloir sur la pointe des pieds, dépasse les chambres de ses frères. La salle de bain, à droite, est ouverte comme un trou béant, ne laissant voir qu'un triangle du miroir sur lequel empiète un peignoir accroché aux porte-serviettes. Mackenzie s'approche de la porte de la suite parentale jusqu'à la frôler. Elle lève la main pour frapper, ce qu'on fait quand on est bien élevé, puis se ravise.
« Maman !»
chuchote-t-elle dans l'embrasure.
« Maman ! Papa ! Vous êtes réveillée ? Maman, s'il te plaît !»
Elle frissonne, pieds nus dans son pyjama trop fin. Est-ce qu'elle n'entendrait pas un bruit dans l'escalier, là ?«
Maman, s'il te plaît !»
De l'autre côté de la porte, elle imagine la chambre, vaste et réconfortante, avec ses portraits de famille sur les murs. Ses parents le jour de leur mariage, son grand-père né à Shanghai et mort à Los Angeles l'an dernier, un sacré périple. Mackenzie a visité Shanghai. Elle a tout vu. Les restaurants chinois, les hôtels à célébrités, les rues interminables. Dans un coin de la pièce, il y a un canapé où sa mère prend souvent son petit déjeuner en lisant le Washington Post. Les rideaux sont bleus, imprimés de tulipes blanches, et quand ils sortent tout chauds du sèche-linge, les pyjamas de son père sentent la tarte aux pommes. Son menton pique toujours le soir. Autant de sensations de sécurité. Mackenzie entrebâille la porte. Son grincement lui donne des frissons. La pièce lui est si familière dans le clair de lune bleuté que laissent entrer les fenêtres. Et le souffle tranquille, inspiration, expiration, des parents qui dorment.
« Papa !»
Une voix brusque résonne au fond de la pièce, celle de son père.
« Kenz, qu'est-ce qui se passe ?»
Dans l'immense lit, sa mère s'assoit.
« Kenz, ma chérie !»
murmure-t-elle en se frottant les yeux encore somnolente.
« Maman, qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Je sais pas, c'est... »«
Mon cœur, » reprend son père d'une voix endormie. « Qu'est-ce que tu veux ?»«
Maman, papa, il y a... Je crois qu'il y a quelque chose dans ma chambre. Il faut que vous montiez voir. »